France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Masnasavoy.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler. Et aujourd'hui, notre invité philosophe a choisi d'évoquer ce qui ressemble à un journal philosophique écrit en exil à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 153 aphorismes qui portent sur les détails de la vie quotidienne, vie mutilée par la société moderne, vie dominée par le social et l'industrie culturelle.
L'attitude que produit l'industrie culturelle est tout autre chose qu'inoffensif. L'effet d'ensemble de l'industrie culturelle est celui d'une anti-démystification, celui d'une anti-aufklärung. Dans l'industrie culturelle, la démystification, l'aufklärung, les lumières, à savoir la domination technique progressive, se mue en tromperie des masses, c'est-à-dire en moyen de garrotter la conscience. Elle empêche la formation d'individus autonomes, indépendants, capables de juger et de se décider consciemment. Mais ceux-ci sont la condition préalable d'une société démocratique qui ne saurait se sauvegarder et s'épanouir qu'à travers d'hommes hors de tutelle.
Bonjour Estelle Ferrarese.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'Université de Picardie et membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit Une philosophie des sanglots qui vient de paraître chez Payot et Rivage. Et vous avez choisi de nous parler, on vient d'entendre sa voix, de Théodore Adorno et de son livre Minima Moralia. Alors moi déjà, j'ai découvert que Adorno parlait parfaitement français.
Alors oui, il le parlait, il a...
Un vague accent sur progressif, mais enfin vraiment...
Oui, tout à fait, il a donné notamment trois leçons au Collège de France, 2 ans avant la conférence qu'on vient d'entendre là.
Donc oui, qui date de 63.
Qui date de 63, donc effectivement les conférences du Collège de France en 1961. Il l'utilise notamment parfois, y compris dans l'ouvrage dont on va discuter aujourd'hui, Minima Moralia, des petits titres en français ou des mots en français. Mmh. Donc il parlait français.
Quel était son rapport avec la France?
Alors, je ne pense pas qu'il ait eu une relation de type passionnel.
Il n'y a pas vécu.
En fait, il y est passé au moment où il est en train d'essayer de fuir l'Allemagne nazie. Donc, effectivement, il est quelques mois, il tente d'obtenir les moyens de séjourner en France. Et ça ne va pas véritablement marcher. En fait, il va essayer d'être hébergé d'un point de vue académique par ce qui précédait à l'époque, qui serait un peu l'ancêtre de l'OHSS. Puis il va partir en Angleterre. Et ensuite, il va donc émigrer aux États-Unis où il écrit Minima Moralia.
Alors, c'est quoi Minima Moralia? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Estelle Ferrarese, ce qu'est ce livre que j'ai décrit comme un journal philosophique? C'est fait d'aphorismes, c'est écrit entre 44 et 47, c'est en trois parties. Minima Moralia, déjà, c'est un petit peu évocateur et en même temps un peu mystérieux comme titre.
Oui, alors, c'est un ouvrage qui est plutôt atypique dans sa manière d'écrire, déjà. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme vous le disiez...
Ça ressemble pas à du Adorno.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est composé d'aphorismes uniquement. Certains sont extrêmement brefs. Donc ça s'oppose complètement à des ouvrages qui veulent faire somme, comme par exemple Dialectique négative, qui va écrire quelques années plus tard. C'est un ouvrage aussi dans lequel il y a un certain nombre d'éléments biographiques qui sont ensevelis, c'est-à-dire en fait il ne va jamais dire « je » et il ne va jamais nous raconter des scènes. Mais il y a parfois des références à des lieux de son enfance, à des chansons qu'il a pu apprendre.
Des contes aussi.
À des contes, exactement. Donc il y a des petites perles ou des petits grains de sable qui renvoient à des choses, des éléments expérientiels, ce qui ne fait pas d'habitude. C'est aussi un ouvrage qui est important parce que c'est vraiment ce qu'il écrit, j'allais dire, quand il touche le fond du point de vue de l'expérience de la barbarie. C'est-à-dire, en fait, donc, il commence à écrire en 1944. Bon, il est à Los Angeles, hein, il est émigré depuis... il est à Los Angeles depuis 1941. Et donc, il vient d'achever... avec Horkheimer, La dialectique de la raison. Et là, donc, il va se lancer donc, dans cette espèce de journal philosophique qui commence immédiatement dans la dédicace qu'il écrit, qui est une dédicace à Horkheimer, justement, son partenaire pour La dialectique de la raison, qui commence par le fait qu'il va nous enseigner hein, ou nous offrir un triste savoir. C'est l'expression qu'il utilise. Donc, un triste savoir de la barbarie. Alors, à la fois, une réflexion sur... l'humanité qui a pu produire le nazisme, mais aussi, en fait, plus largement, la barbarie telle qu'on va la retrouver dans la forme de vie capitaliste. C'est-à-dire qu'il ne parle pas que de l'Allemagne. Donc il nous offre, si vous voulez, un regard, ou donc un savoir triste sur la vie mutilée. Et ce qui est important, qu'on n'entend pas dans le sous-titre français, hein, puisque le sous-titre c'est en français est traduit « Réflexion sur la vie mutilée », ce qui déforme un peu, parce qu'en réalité en allemand c'est « Réflexion depuis la vie mutilée ».
Depuis plutôt la vie d'un exilé, en fait.
C'est ça, exactement. Donc dans cette vie mutilée, c'est à la fois sa vie d'exilé. Effectivement, l'exil n'a pas été pour lui une expérience facile, et notamment le fait de devoir... penser dans une autre langue que l'allemand, pour lui, était quelque chose d'assez compliqué. Mais cette vie mutilée, de manière plus générale, c'est la vie qui est la nôtre dans la société administrée, dans une société qui est complètement régie par une forme de domination, par la raison instrumentale, qui a produit donc comme première modalité historiquement le capitalisme, et donc ce qui est pour lui une sorte de prolongement logique et inévitable, le nazisme. Donc il va nous parler depuis cette vie mutilée au moyen d'aphorismes qui sont, dans leur forme même, une manière de se tenir, de s'ériger contre cette forme de vie qui aspire à la totalité. Donc il va écrire des choses fragmentées, des choses hachées, précisément pour ne pas aller dans le sens de la totalisation, de la cohérence.
Il faut tout le temps échapper à cette totalité qui pourrait tout de suite nous absorber, nous rationaliser, nous capitaliser, j'allais dire, d'une certaine manière, et puis donc nous rendre barbares, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça.
Alors ce que vous n'avez pas dit, Estelle Ferraresi, mais on va le découvrir en écoutant des textes, pas tout de suite, mais très vite, c'est que là, effectivement, la vie mutilée, écrire sur la vie mutilée ou depuis la vie mutilée, délivrer un triste savoir, vouloir échapper à la totalité, c'est extrêmement désespéré d'une certaine manière. En lisant d'ailleurs Adorno, on se demande ce qu'on pourrait écrire après. Mais c'est aussi extrêmement drôle. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir, je le dis pour les auditeurs et auditrices qui seraient un petit peu impressionnés par Adorno, par l'époque à laquelle il a écrit, par l'école de Francfort à laquelle il appartenait et par ses autres textes type dialectique négative, qu'on peut prendre n'importe quel fragment. Je n'assure pas qu'on comprendra tout, mais on va rire.
Oui, il a une ironie assez mordante auquel il donne vraiment libre cours dans cet ouvrage. Et on peut retrouver, par exemple, il y a des passages où il réfléchit sur ce que c'est que l'amour, en particulier l'amour bourgeois. Alors, c'est comme d'habitude chez lui, pensé de manière très dialectique, c'est-à-dire l'amour, c'est à la fois bon, quelque chose qui enserre, qui promet un faux dépassement de notre forme de vie, dans la mesure où ça permet d'échapper à quelque chose apparemment d'instrumental. Mais il y a quand même quelque chose qui pointe, effectivement, hors de cette forme de vie. Il dit que être aimé, c'est pouvoir se montrer vulnérable tout en ayant l'assurance de ne pas être l'objet d'un geste de force. Donc, il y a des choses dialectiques. Et puis, en fait, après, il va en même temps, dans le même groupe d'aphorismes consacré à l'amour, montrer ce que c'est qu'un couple d'universitaires qui divorce et l'espèce de mesquinerie, l'enchaînement de chicaneries pour récupérer tel livre, tel bureau, tel objet.
Oui, où il dit le mari pourrait aller chez son ex-femme pour récupérer un objet en son absence qu'elle aurait gardé ou un livre. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que d'où lui viennent ces idées de choper comme ça des petites choses qui seraient révélatrices de cette emprise du social sur la vie individuelle, sur la vie intime. Ça vient d'où, en fait, cette méthode, cette idée qu'il a eue ?
Alors,
Bon. Parce qu'on n'était pas à une époque de la philosophie du quotidien, de l'ordinaire, même si ça se distingue aujourd'hui, on y reviendra, mais voilà, on n'était pas penché, c'était les grands systèmes, c'était lire Heidegger, c'était faire de la phénoménologie, c'était pas voilà, parler de chaussons, parce qu'il parle de pantoufles aussi.
Donc, oui, tout à fait, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais oui, alors, il y a, je pense, une influence assez forte de Walter Benjamin, notamment parce que c'est principalement en se référant à lui, que Adorno va forger une expression qui revient régulièrement dans ses œuvres, qui est celle de regard micrologique. Donc, dont on entend bien dans le préfixe micro, hein, ce qui est en jeu ici, c'est-à-dire le fait de s'attarder sur ce qui est petit, sur ce qui a, ce que relève du détail, et vraiment de laisser la pensée s'appesantir là-dessus, laisser même la pensée même repartir de cette petite chose. Et régulièrement, quand il emploie cette expression regard micrologique, c'est pour dire, c'est pour qualifier ce que fait Benjamin, qui, lui, a plutôt, on va dire, un regard sur le petit au sens de ce qui est vaincu. Benjamin a écrit beaucoup sur l'histoire comme étant l'histoire des vainqueurs, et donc, lui, s'est appesanti sur les vaincus de l'histoire, les vaincus du capitalisme, les vaincus. Donc, c'est probablement dans une conversation avec la méthode de Benjamin, qu'il s'est lui-même donné à procéder de cette manière. Même si lui, c'est pas tellement sur la question des vaincus, c'est pas tellement par rapport à l'histoire. Mais il y a de toute manière ce regard sur aussi ce qui est matériel aussi. C'est-à-dire, justement, vous parliez des pantoufles qui, effectivement, font l'objet d'un aphorisme. Mais il y a souvent des choses sur les portes.
Oui, on va l'entendre aussi. Donc c'est le cinéma.
C'est ça, sur des petits objets où, par exemple, il y a des choses qui sont plus peuvent être contestées, mais notamment des petites scénettes appartenant, en puisant dans l'industrie culturelle hollywoodienne de son époque, hein, avec des mises en scène très genrées des hommes et des femmes, dans lesquels il nous parle de cet homme américain des années 40 qui, en fait, rentrant chez lui après le travail, va singer, en fait, le héros qu'il a vu dans les films hollywoodiens, et donc se servir un verre de whisky. Donc il y a vraiment ce regard sur les objets, sur la matérialité, qui, là, pour le coup, fait aussi écho à Benjamin, parce que Benjamin, sans aller vers le côté aussi anecdotique que ça, a aussi, par exemple, écrit un livre sur les passages parisiens, donc vraiment sur la manière dont, finalement, du sens, des valeurs se déposent, se sédimentent dans les choses, dans les objets.
Est-ce que c'est ça qui vous a plu, Estelle Ferrarisé, quand vous avez découvert Adorno pour la première fois? Est-ce que d'ailleurs vous avez commencé par ce texte d'Adorno?
Alors oui, j'ai commencé par ce texte. Je me souviens très bien, c'était en troisième année, troisième année d'études. J'ai commencé par celui-là.
Donc de philo, j'imagine. Hein.
Ah non, à l'époque, j'étais en sciences politiques.
Ah oui.
Et je suis tombée sur ce. Alors, j'avais un cours sur l'école de Francfort et j'avais eu la sensation que c'était plus facile à lire, très sincèrement, que justement la dialectique négative. Et puis, je pense qu'une des premières choses qui m'a frappée lorsque j'ai entendu parler d'Adorno, c'était qu'il avait développé une forme de sensibilité par rapport à la question animale, et qui me travaillait beaucoup à l'époque, qui me travaille toujours d'ailleurs. Et il y avait cette idée d'une domination de la nature avec un regard particulier sur la violence faite aux animaux, comme quelque chose qui n'était pas simplement une conséquence un peu indirecte de notre rapport au monde, mais qui en était centrale. C'était vraiment cette idée d'une raison qui s'impose en dominant et en transformant tout ce qu'elle place face à elle en instrument. Et donc, je cherchais ça, en fait. Finalement, dans Minima Moralia, il y a quelques
passages. Mais ce n'est pas le plus présent.
C'est ça. En fait, il y a beaucoup plus de choses dans Dialectique de la raison sur la question
donc
de la
raison. Dans le texte plus compliqué, c'est ça.
C'est ça, ouais. Mais il y a effectivement quelques passages dans lesquels il parle.
Et qui sont assez forts, parce que tous les aphorismes s'attachent à des choses petites, vous l'avez dit, Estelle Ferrarisé, mais sont aussi, en fait, écrites comme des pointes. C'est-à-dire qu'il y a de l'ironie, il y a du désespoir, et il y a quelque chose, en fait, de paralysant même, en lisant Adorno. c'était, enfin, en tout cas, en lisant Minima Moralia, on se demande qu'est-ce qu'on peut dire après. On a l'impression que si on pense, on tombe dans tous les clichés qu'il dénonce, dans la raison instrumentale. Regarder une paire de pantoufles, c'est être un objet de haine. Pour Adorno, se séparer, c'est tomber dans des petites mesquineries. C'est-à-dire que vraiment, il est tellement assassin dans son regard qu'on se demande en fait s'il nous reste quelque chose d'innocent et même de bien à faire. Je pense d'ailleurs qu'Adorno aurait détesté cette expression de dire « j'ai quelque chose de bien à faire ».
Alors, je crois que cet ouvrage, qui, comme je le disais, vraiment... un moment, enfin peut-être le plus pessimiste d'un auteur qui, par ailleurs, est extrêmement pessimiste. Hein,
mais c'est pas la joie de vivre. C'est drôle. C'est sûr. Pardon.
Et cet ouvrage, il est bon. C'est quelque chose qui a pour objet principal la question de la morale, hein, comme le titre le donne. C'est-à-dire qu'est-ce qui surnage de la morale à notre époque. Et donc, premier aspect, ce que vous avez un peu annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que il va l'aborder par quelque chose de minime. Puisqu'il parle de minima moralia, hein, donc qu'est-ce que c'est que ces éléments, ces micro-éléments de morale qu'on pourrait encore identifier, donc et qui sont une manière déjà de se poser dès le titre contre des grandes morales qui ont été pendant des siècles proposées et dont il va dans d'autres ouvrages faire la critique en disant que justement leur aspiration à la totalisation offre aussi les formes qui sont nécessaires à cette raison instrumentale pour trouver d'autres formes de sédimentation dans l'économie, dans la domination politique, etc., etc. Donc lui, en fait, il écrit ça, donc des propos, donc des sortes de recueillir des copeaux, je dirais, de morale, qui passent toujours par une critique. Hein, c'est toujours de manière négative que peut-être on va découvrir ce qu'il reste à sauver. Donc ça n'est jamais avec une position en surplomb, hein, le philosophe qui regarde la société et essaye de penser une société juste, une société morale, c'est jamais comme ça. C'est toujours par la critique de ce qui existe, donc forcément il part d'éléments qu'il essaye de dire tout son mépris. Mais le cœur, enfin une de ces aphorismes les plus connus, et qui resserre en quelque sorte tout son propos, c'est un aphorisme dans lequel il va nous dire « Il n'y a pas de vie juste ou de vie bonne dans un monde faux, ou dans un monde mauvais. » Il y a un problème une difficulté avec la traduction. Et je crois que c'est ça, en fait, son propos, hein, c'est-à-dire de montrer le monde qui est le sien et le monde qui est peut-être le nôtre aussi, comme un monde faux, dans lequel il ne faut pas se berner en s'illusionnant qu'on pourrait se retirer dans une forme d'éthique personnelle. Autant, justement, étaler la noirceur, la donner à voir dans toute son amplitude, parce que là, du coup, il nous devient évident la nécessité d'une transformation radicale. Mais justement, il faudrait pas penser que le monde est sombre. Moi, je me retire dans ma tour d'ivoire d'intellectuel ou de citoyen, en me disant moi au moins je serai juste et droit. Ça n'est pas possible. Hein, il nous le dit clairement. Il n'y a pas de vie juste dans un monde faux. Et je vais vous en donner la preuve avec tous ces éléments recueillis.
Eh ben, on va justement écouter Estelle Ferrarese. On a parlé de couples qui divorcent, on a parlé de pantoufles. Eh bien, on va écouter Adorno nous parler de claquement de porte. C'est l'aphorisme 19.
Entrer sans frapper. La technicisation a rendu précis et fruste les gestes que nous faisons, et du même coup aussi les hommes. Elle retire au geste toute hésitation, toute circonspection et tout raffinement. Elle les plie aux exigences intransigeantes et, pour ainsi dire, privées d'histoire, qui sont celles des choses. C'est ainsi qu'on a désappris à fermer une porte doucement et sans bruit, tout en la fermant bien. Celles des voitures et des frigidaires, il faut les claquer. D'autres ont tendance à se refermer toutes seules, automatiquement, invitant ainsi celui qui vient d'entrer au sans-gêne, le dispensant de regarder derrière lui et de respecter l'intérieur qu'il accueille. On ne rend pas justice à l'homme moderne si l'on n'est pas conscient de tout ce que ne cesse de lui infliger, jusque dans ses innervations les plus profondes, les choses qui l'entourent. Qu'est-ce que cela signifie pour le sujet, le fait qu'il n'y ait plus de fenêtre à double battant à ouvrir, mais de grossiers panneaux vitrés qu'il suffit de faire glisser. Plus de délicates clenches de portes, mais de simples poignées qu'on tourne. Plus de vestibules, plus de perrons entre la maison et la rue, plus de murs autour des jardins. Et qui n'a pas eu au volant de sa voiture, en sentant la puissance de son moteur, la tentation d'écraser des bestioles sur la route, des passants, des enfants ou des cyclistes? Dans les mouvements que les machines exigent de ceux qui les font marcher, il y a déjà la brusquerie, l'insistance saccadée et la violence qui caractérisent les brutalités fascistes. S'il y a dépérissement de l'expérience acquise, la faute en revient pour une très large part au fait que les choses étant soumises à des impératifs purement utilitaires, leur forme exclut qu'on en fasse autre chose que de s'en servir. Il n'y est plus toléré le moindre superflu, ni dans la liberté des comportements, ni dans l'autonomie des choses. Or, c'est ce superflu qui peut survivre comme un noyau d'expérience, car il ne s'épuise pas dans l'instant de l'action.
Minima Moralia, réflexion sur la vie mutilée, ou depuis plutôt la vie mutilée, de Théodore Adorno, lu par Nicolas Berger. C'était l'aphorisme 19. En écoutant ce texte, Estelle Ferrarese, j'ai envie de vous demander quel type de fenêtre vous avez chez vous.
À porte,
à des baies vitrées qu'on pousse comme ça?
Non, c'est les typiques fenêtres parisiennes qui s'ouvrent.
Donc vous avez encore ce rapport à la poignée qui se tourne et vous pouvez fermer délicatement les fenêtres. D'où vient à Adorno cette idée de voir dans la manière dont on manipule des portes, on pourrait dire le signe, l'indice, le symptôme de notre barbarie?
Alors, je pense qu'il y a deux éléments, en fait, dans cet aphorisme. D'abord, il y a, d'un point de vue biographique dont on parlait tout à l'heure, le choc que représente pour lui l'arrivée aux États-Unis. Vraiment dans le...
Puis à Los Angeles.
À Los Angeles. C'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs aphorismes dans lesquels il va rendre compte du choc qui est pour lui le mode de vie, et en particulier les habitations. Donc ça va passer par les portes, il parle des jardins aussi, enfin qui est de toute une manière, tout ceci s'organisant en fait quand on lit tous ces chapitres, ces aphorismes sur Los Angeles autour d'une sorte d'aspiration à l'efficacité, mais aussi à la propreté, à l'hygiène, qui serait en quelque sorte fossilisée dans les habitations de Los Angeles. Donc, il y a effectivement un choc biographique là. Qu'est-ce que c'est par rapport à cette vieille Europe dont il a tant la nostalgie, qui est peut-être plus imparfaite et plus faite d'inefficacité? Que ce qu'il a en face de lui. Et puis bon, au-delà de cet aspect qui lui reste personnel, il y a aussi derrière donc une réflexion sur la forme de vie capitaliste, sur la forme qu'a notre vie. C'est-à-dire là, il y a vraiment une manière de prendre au sérieux l'idée de forme, au sens où les idées se sédimentent, comme on disait tout à l'heure, dans les choses.
Pas plus que dans les choses, là. Dans nos manières de faire.
C'est ça. Et donc, dans nos corps aussi. Oui. C'est-à-dire que il y a une réflexion sur la manière dont notre corps, en étant amené à agir ou à saisir d'une certaine manière, se trouve lui-même transformé. Donc, dans la manière dont nos habitudes corporelles sont médiatisées, en fait, par... encore une fois, du sens des valeurs, aussi horribles qu'elles puissent être, et perdre la matière. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir, on parlait tout à l'heure de micrologie, de qu'est-ce que ça veut dire, mais quand on écoute bien le texte là, qui vient de nous être lu, il nous dit, qu'est-ce que, il parle des portes et il dit ce qui est infligé au sujet. Donc en fait, ouais, ce qu'il a en tête, c'est vraiment une catégorie philosophique aussi lourde que celle de sujet, hein. C'est à ça. Qu'est-il devenu au sujet? Il va le traiter par le prisme de la question des portes. Est-ce qu'il y a...
Mais ça, c'est déjà fou. C'est-à-dire que quand on lit ce texte, on pourrait d'ailleurs y passer des heures, Estelle Ferrarese, parce que vraiment, tout y est, c'est-à-dire ce qu'il dit sur le fait de conduire. Moi, j'ai vécu ce qui, c'est-à-dire la tentation de me dire je peux écraser quelqu'un. Le fait qu'on arrive en claquant des portes ou en reclaquant une autre porte, le fait qu'on ne fasse même plus attention à la manière dont on ferme une porte parce que de toute façon, ou une fenêtre, parce que de toute façon, elle doit être fermée ou ouverte et il n'y a plus que ouvert ou fermé comme modalité. C'est des choses dont il tire cette question qu'il dit. Qu'est-ce que cela signifie pour le sujet, le fait qu'il n'y ait plus de fenêtre à double bâton à ouvrir? Alors qu'est-ce que ça signifie? Que le sujet disparaît? Comment il y répond à cette question?
Alors que le j'allais dire que le sujet est disparu, certainement, mais bon, pour Adorno, c'est pas forcément un drame. Hein.
Oui, parce ça le dérange pas que le sujet disparaisse?
Non, parce qu'il est effectivement attaché à cette idée. Alors, comme d'habitude, on disait tout à l'heure, il y a toujours un côté dialectique dans ce qu'il dit. Il y a des oppositions, des contradictions qui restent ensemble. Le sujet, c'est effectivement ce sujet autonome qui a été complètement dissous par le nazisme, hein, dont il d'une manière qui avait été amenée ou qui est accompagnée par l'industrie culturelle dont on entendait parler tout à l'heure,
oui, dans l'archive.
Donc effectivement le sujet, c'est, si vous voulez, c'est un rêve bourgeois en fait pour Adorno. C'est une certaine manière qu'a eu l'être humain dans une certaine époque de se rêver d'une manière qui supposait une maîtrise sur son environnement. Donc notamment sur la nature, mais pas que sur ça, sur lui-même aussi. Et cette manière de se rêver était aussi une forme de violence sur lui-même, hein, sur le sujet lui-même. C'est passé par un certain rêve d'autonomie, c'est-à-dire d'autodétermination, de sortie de l'état de tutelle. Hein, c'est avec ça que finit le texte qu'on vient d'entendre. Donc ça renvoie explicitement en fait à Kant.
Oui, quand
Kant,
il parle, hein, de liberté et d'autonomie.
C'est ça. Et en fait, le passage renvoie délibérément à Kant. Hein, c'est-à-dire la sortie de l'état de tutelle, hein, dans Qu'est-ce que les Lumières. Donc en fait, cette espèce de rêve qui tenait en lui-même à la fois quelque chose comme une promesse d'émancipation et une réalité de brutalité ou de brutalité à venir, c'est ce sujet-là donc qui s'est dissous complètement. Donc d'une certaine manière, c'était pas si grave qu'on ait perdu quelque chose
qui était complètement fabriqué, complètement rêvé et violent. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que si le rêve du sujet est violent, il est violent à l'égard de qui? C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de sujet qui se dissout, qui a été rêvé, on parle d'un point de vue par exemple individuel. Donc moi, si je ne suis pas un sujet que j'ai rêvé être et qui se dissout, qui suis-je? C'est ça la question. En fait, que reste-t-il en fait de l'homme? C'est ça la question? De l'humanité?
Oui, c'est un peu ça la question. Et que reste-t-il de... Enfin, oui. En fait, il a déjà répondu à la question. Il ne reste que des masses. En fait, il ne reste que des, à la limite, que des corps qui sont assujettis à la brutalité.
Alors, qu'est-ce qui l'inquiète, Adorno? Parce que si en fait ce rêve de sujet qui disparaît, ça finalement, c'est une bonne chose pour lui parce que ce sujet n'était qu'une violence, qu'une autre manière d'instrumentaliser la raison et d'être barbare avec soi-même. Alors pourquoi se pose-t-il cette question qui lui semble si cruciale de savoir ce que ça nous fait? Qu'est-ce qui reste à sauver?
Parce qu'il, sans qu'il y ait chez lui aucune tentative de trouver un fondement ultime, je pense qu'il y a quelque chose comme la nostalgie ou la quête de d'un lieu dans lequel se situerait une résistance à ce qu'est devenu cet être humain. C'est-à-dire que c'est pas forcément retrouver une anthropologie, ou c'est pas aussi fort que ça.
Mais c'est pas revenir à un état d'avant qui aurait été meilleur.
C'est ça. Mais en fait, notamment parce que chez lui, l'idée de souffrance est assez forte. C'est une idée de souffrance qu'il va travailler notamment à partir de Freud, et qu'on va retrouver de toute façon dans toute l'école de Francfort de cette période-là, l'idée que souffrir, ou ressentir une souffrance, qu'elle soit physique ou morale, et les deux ensemble souvent, ou psychologique, c'est ressentir le fait que quelque chose n'est pas comme cela devrait être. Et c'est en fait, si vous voulez, quelque chose sur lequel il va beaucoup revenir, sur le fait que finalement, c'est peut-être le corps qui signale que le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Donc il y a une sorte de signe qu'il est possible de faire vers une nature et un être humain non dominé, mais qui ne renvoie pas à un ensemble de caractéristiques complexes, des capacités. Donc il ne s'agit pas de créer une autre fiction à côté du sujet. Hein. En fait, on est toujours dans une sorte de seconde nature et il n'est pas possible de revenir à la première nature. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est mutilé.
Voilà. En fait, ce que nous dit Adorno, à travers le claquement d'une porte, des fenêtres à double battant, oui, c'est bien ça qu'il dit, voilà, double battant avec des grossiers panneaux vitrés, c'est que finalement, il faut en fait ces détails nous anesthésie et nous empêche de faire face à une souffrance qui serait pas forcément originelle et fondatrice, mais à laquelle il faudrait faire face parce qu'il faudrait pouvoir l'interpréter comme quelque chose qui ne va pas. Or, le monde dans lequel nous vivons, dans lequel il vit et dans lequel nous vivons encore, c'est en fait un monde de confort, en fait un monde ouaté où en fait tout doit être facile, tout doit être utilitaire, tout doit être efficace. Est-ce que j'ai bien compris Adorno si je dis ça, Estelle Ferraresi?
Oui, alors c'est pas forcément de confort, mais effectivement il y a l'idée de d'une efficacité, d'une brutalité qui nous rend aveugle, en tout cas sourd, je dirais, à des formes de souffrance, les nôtres peut-être, et aussi celles d'autrui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce passage sur les portes, en fait, il est dans une série d'aphorismes qui débouche sur la question du tact. En fait, ça, pour en revenir à des questions de morale et de morale minime, hein. C'est-à-dire en fait, ce sur quoi il va arriver après, c'est sur cette idée que finalement, on ne peut pas penser le tact, c'est-à-dire cette espèce d'attention extrêmement fine à une situation compliquée, par exemple à des manifestations de souffrance de la part d'autrui qui peut-être pleure devant moi et comment me comporter. Le tact, peut-être, ben, ça peut être tout simplement de se retirer de la pièce et justement de fermer la porte pour le laisser pleurer.
Et délicatement.
Mais justement, ça n'est plus possible. Ça va forcément faire ce bruit atroce dont il parle. Donc en fait, on voit comment sont entremêlées ici à la fois la question fondamentale du souci des autres qu'il n'est pas possible, qu'il n'est plus possible, la forme de notre vie dans sa couche la plus matérielle et la question de la domination, tout ceci tenu dans quelque chose d'extrêmement petit. Encore une fois, qui est le poignet de porte.
C'est ça qu'on doit entendre à la fin du texte. S'il y a dépérissement de l'expérience acquise, la faute en revient pour une très large part au fait que les choses étant soumises à des impératifs purement utilitaires, leur forme exclut qu'on en fasse autre chose que de s'en servir. Il n'y est plus toléré le moindre superflu, ni dans la liberté des comportements, ni dans l'autonomie des choses. Or, et c'est là que c'est important, c'est ce superflu qui peut survivre comme un noyau d'expérience car il ne s'épuise pas dans l'instant de l'action.
Oui, c'est ça. C'est en fait C'est en fait, il va essayer d'arracher à la totalité sociale tout ce qui n'est pas immédiatement utile, tout ce qui n'est pas instrumentalisé. Mais encore une fois, ça suppose, j'aime bien employer l'idée de taillader dans la totalité sociale, parce qu'en fait, elle a déjà tout rendu.
Elle a tout absorbé.
Elle a tout absorbé, en fait. Elle a déjà tout lissé. Et il appartient donc au philosophe, il appartient au théoricien critique, puisque c'est comme ça qu'il se nomme, si vous voulez, d'aller rechercher ce détail, de l'extraire, et donc pour identifier, donner à voir des choses qui donc ne sont pas, ou pourraient ne pas être, immédiatement utilitaire.
Est-ce qu'on peut se tromper dans ce type d'expérience? C'est-à-dire, comme vous avez dit, Estelle Ferraresi, avec le tact, par exemple, je vois une personne pleurer, le tact voudrait que je me retire doucement et que je referme délicatement la porte. Est-ce que on ne peut pas se tromper sur ce genre d'expérience, y voir une forme de taillade dans le social, une manière d'échapper à la totalité, à la violence d'une porte qui claque? Et en fait, c'est rien.
Alors, oui.
C'est une résistance sans effet, d'une certaine manière.
Oui, alors, je pense qu'il y a chez Adorno une manière de tenir à distance, justement, la tentation de s'en référer à sa propre expérience. C'est-à-dire, encore une fois, il parle d'une morale minime. Donc c'est pas du tout un traité des vertus ou ce genre de choses. S'il y a une vertu qui apparaît par moment, en fait, c'est celle de la modestie. Et la modestie ici étant à comprendre comme une modestie, y compris vis-à-vis de ses propres, de ses propres énoncés. Donc, c'est un appel au sens critique, y compris vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est pas du tout une sorte d'appel à une sorte de lecture subjective d'évidence qui s'impose à moi. Pas du tout. Il y a vraiment l'idée d'une pensée qui doit s'exercer, y compris contre elle-même, qui est très importante chez Adorno, donc pas simplement une collection de choses qui lui passent par la tête. Il y a aussi, malgré tout, l'idée de sauver le concept. C'est pas s'en débarrasser complètement, même s'il y a toute une critique du concept comme ce qui est le véhicule de la domination et de la raison, hein, de la pensée identifiante, etc. Mais en même temps, il ne saborde pas
le concept. Pour penser contre la pensée, mais continuer à penser.
Exactement.
C'est bien aimable à vous, monsieur le professeur. Il n'y a plus rien d'innocent. Les petites joies de l'existence, qui semblent dispenser des responsabilités de la réflexion, ne comportent pas seulement un élément de sottise têtue, d'aveuglement volontaire et égoïste. En fait, elles se mettent directement au service de ce qui est le plus totalement en contradiction avec elles. Même l'arbre en fleurs ment, dès l'instant où on le regarde fleurir en oubliant l'ombre du mal. Que c'est joli! Même cette exclamation innocente revient à justifier les infamies de l'existence, qui est tout autre que belle. Et il n'y a plus maintenant de beauté et de consolation que dans le regard qui se tourne vers l'horrible, s'y confronte et maintient avec une conscience entière de la négativité la possibilité d'un monde meilleur. La méfiance s'impose à l'égard de toute spontanéité, de toute légèreté et de tout relâchement, car ce sont autant de façons de reculer devant la puissance écrasante de ce qui existe. Telle conversation nouée au hasard d'un voyage en chemin de fer et les quelques phrases auxquelles on accepte d'acquiescer pour éviter une dispute, alors qu'on sait très bien que la logique de leurs conséquences est fatalement meurtrière, voilà déjà une première trahison. Aucune pensée n'est immunisée contre les risques de la communication. Il suffit de l'exprimer dans un contexte inadéquat et sur la base d'un mauvais consensus pour en miner la vérité. Chaque fois que je vais au cinéma, j'en sors plus bête et pire que je n'y suis entré, malgré toute ma vigilance. Être sociable, c'est déjà prendre part à l'injustice, en donnant l'illusion que le monde de froideur où nous vivons maintenant est un monde où il est encore possible de parler les uns avec les autres.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoy.
Aphorisme 5 des Minima Moralia de Théodore Adorno. Je vais me garder de dire que ce texte est joli, parce que dire que c'est joli, l'arbre en fleurs, la conversation en train, le cinéma, tout ça, en fait, tout ce qui constitue peut-être les plaisirs en fait d'une vie quotidienne, il faut s'en méfier selon Adorno. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a lu Adorno et Selferarese, à part être même, j'irais plus que méfiant, suspicieux à l'égard de tout ce qui nous entoure?
Déjà, je pense qu'il faut souligner une première chose, c'est que Adorno lui-même dit qu'il procède par exagération. C'est-à-dire qu'il le pose comme une de ses méthodes. Donc, c'est cette accumulation de détails est aussi, j'allais dire, stratégique de sa part. Premier élément. Ensuite, je pense qu'il y a derrière ce diagnostic particulièrement noir et justement la sévérité de la conclusion qu'il en tire, c'est-à-dire il n'y a pas de vie juste dans un monde faux, au fond, un appel politique. Alors, on a souvent souligné, et à raison, je pense, le retrait progressif de la politique d'Adorno, hein, qui est effectivement quelqu'un d'assez marxiste dans sa jeunesse, et puis se retire de plus en plus dans une sorte de méditation pessimiste, jusqu'à être mise en cause par ses étudiants en 1968, qui ne retrouvent pas en lui la verve révolutionnaire de ces jeunes années. En même temps, il me semble que tout cela a pour conséquence qu'il, en tout cas, c'est une conséquence qu'il nous appelle à tirer, la nécessité de transformer les conditions sociopolitiques qui rendraient encore possible, par exemple, certaines formes d'attitude, certaines possibilités de faire preuve de sociabilité, de parler à son voisin dans le train, de redonner, si vous voulez, leur sens initial à ce qui a été désajusté de nos intentions par le contexte. C'est ça, c'est bien ça, en fait, ce qu'il essaie de nous dire dans ce passage. C'est finalement, nos intentions, aussi justes soient-elles, c'est-à-dire, en fait, finalement, faire preuve de civilité avec notre voisin dans le train. Donc, c'est une intention qui est juste. Ça n'est pas...
Oui, vouloir parler, vouloir regarder un arbre en fleurs et y trouver de la beauté.
C'est ça. Donc, et c'est ce qui est vraiment désajusté, désarticulé par notre forme de vie qui, étant elle-même, par ailleurs, entièrement barbare, rend cette chose une forme de complicité presque active. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui va dissimuler le fait que, par ailleurs, tout le reste est invivable. Donc, cette manière de penser nous appelle à corriger ce qui produit mécaniquement le déraillage de toutes nos...
Entre l'intention et la manière dont, pris dans les formes de vie, cette intention est complètement corrompue.
C'est ça.
Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est la manière dont il dit, au-delà de l'exagération, de ce qui peut faire sourire, il y a aussi des passages dans d'autres aphorismes sur la bienveillance, hein, où il condamne la bienveillance comme une manière de participer à l'injustice. C'est cette manière qu'il a là, dans ce texte, vraiment de dire il n'y a plus maintenant de beauté et de consolation que dans le regard qui se tourne vers l'horrible. C'est là, en fait, que se tient la possibilité d'un monde meilleur. Ça veut dire quoi, regarder l'horrible, Estelle Ferraresé? C'est-à-dire renoncer à la bienveillance, à la politesse, à des exclamations un peu bébêtes, genre « Ah, c'est joli, un arbre en fleurs !» Pour faire quoi? Pour dénoncer? Ce serait ça, une attitude sociopolitique? Dénoncer des crimes? Dénoncer des barbaries?
Je pense que tout ce... résume ou se ramasse dans l'idée de critique.
Alors voilà, comment il faut le comprendre, sa critique? Parce que c'est un terme qui est très employé, qui peut être galvaudé. Qu'est-ce qu'il faut entendre chez lui par critique?
Pour lui,
en garder même aussi, d'ailleurs.
Oui, pour lui, la critique, c'est ce geste donc qui va supposer, je pense, un élément de description, hein, de diagnostic. Souvent, le mot presque médical est utilisé dans cette génération de l'école de Francfort. Hein, un diagnostic du temps présent. Donc, un diagnostic dont qu'il s'agit d'établir tout en établissant l'horreur, y compris lorsque ça ne se donne pas comme horreur. C'est-à-dire précisément le fait de regarder...
La bienveillance, regarder un arbre en fleurs.
Et c'est sur cette base, j'allais dire, de manière négative, qu'on peut-être progresser vers un monde qui serait moins injuste, moins horrible, etc. Donc c'est de manière négative, il y a un travail du négatif, en fait, pour reprendre cette expression hegelienne, hein, chez Adorno. C'est-à-dire la critique, c'est... On ne sait pas ce que serait qu'une société... juste bonne, hein, qu'un monde vrai, pour reprendre cette histoire de monde faux. Nous avons une véritable responsabilité à dénoncer comme faux ce monde qui est le nôtre.
Est-ce que c'est pas paralysant aussi comme regard, la critique? Depuis tout à l'heure, enfin au début de l'émission, et on l'a recité après, on parle de cette histoire de pantoufles. Je vais juste citer la phrase. Il dit ceci, Adorno, les pantoufles, savates, slippers, sont conçues de telle sorte qu'on puisse y glisser le pied sans céder de la main. Elles sont les monuments de la haine pour toute attitude courbée. C'est-à-dire qu'en écoutant Adorno, avoir un regard critique, c'est aussi quelque chose qui peut paralyser, qui peut aussi empêcher précisément l'action. Et on le voit bien dans des formes peut-être diluées de la critique, où quelqu'un qui reste dans la critique, en fait, ne fait rien si ce n'est constater, juger. Alors... Et ne pas porter de pantoufles en plus.
Oui, alors effectivement, ça c'est une réaction qu'on peut avoir face aux écrits d'Adorno. Hein. Par exemple, c'est une réaction que souvent mes étudiants, auxquels j'enseigne depuis des années Adorno, et c'est souvent, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'espoir, c'est un effet avalanche, ce déluge d'éléments négatifs. Je pense qu'il faut aussi le voir comme ce livre comme le produit d'une époque, c'est-à-dire encore une fois, il est écrit en 1944, c'est pas dans les années qui suivent juste après. Donc effectivement, ça traduit aussi le désarroi d'un homme.
Mais on pourrait très bien, en fait, aujourd'hui, quand on lit, ça nous semble pas complètement déconnecté. C'est-à-dire que ça nous semble tout à fait actuel.
Il me semble qu'il y a des éléments alors, là, qui, depuis quelques mois, reprennent une actualité, notamment sur la barbarie, sur la violence du discours, l'absence de forme de décence qui était au moins une certaine forme bourgeoise de vivre, qui sont effectivement totalement en écho, en résonance avec ce qui est en train de se passer. Ouais.
L'homme maigre se dirige vers la bicyclette rouge posée contre les grillages des tennis déserts.
Il est revenu dans le parc.
Oui, chaque nuit. La regarde.
L'homme vierge de Lahore.
Oui.
L'homme est contre la bicyclette. Avance les mains. Hésite et puis la touche. La caresse. Se penche, l'enlace de ses deux bras. Reste là, contre la bicyclette rouge d'Anne-Marie Streeter, immobilisée dans le geste du désir. Alors qu'il s'est penché vers la bicyclette, dans un mouvement inversé, elle se relève. Au même rythme, lent, elle se relève et se tourne vers le parc. Anne-Marie Streeter regarde l'homme en blanc, enlacé à sa bicyclette. C'est quand il a disparu que dans un mouvement très lent, elle reprend sa place d'endormie sous le ventilateur de cauchemar.
Extrait d'India Song, non pas le film, mais qui est sorti après, parce que ça, c'est une pièce radiophonique qui date de 1974, donc un an avant le film, et on entend encore Marguerite Duras en fond, qui fait donc la narration de sa pièce radiophonique. C'est une pièce, c'est un texte que vous citez dans votre philosophie des sanglots, Estelle Ferrarese. Et on y retrouve le geste d'Adorno, à savoir cette idée notamment autour de l'impuissance, détectée à travers quelque chose de micrologique comme les sanglots, quoique la personne qui le vit, voilà, c'est quand même plus qu'un claquement de porte pour elle, y détecter une manière dont une organisation sociale, la vie sociale, se répercute au plus intime du sujet.
Oui, c'est ça. Ça reste, enfin, il y a une dimension micrologique dans le fait de chercher à faire une philosophie des sanglots, dans la mesure où c'est une manière de rentrer dans le corps qui passe, j'allais dire, par un détail. Mm. C'est-à-dire que une des raisons pour laquelle je me suis lancée dans cette entreprise, c'était que je voulais effectivement, donc d'une part parler de l'impuissance, on va y revenir dans un instant, qui est un thème adornien récurrent, mais aussi donc donner sa place au corps auquel Adorno m'ont fait allusion parfois, dans différentes directions, mais j'avais une sorte d'aspiration qui a été en grandissant au fur et à mesure de ma carrière et qui m'est notamment venue de ma lecture des philosophies féministes, où là il y a une vraie place du corps, enfin décrit dans sa manière concrète. Et là, pour le coup, Adorno, quand il parle du corps, on ne va jamais rentrer dans ce type de détails, comme lorsque, je ne sais pas, Simone de Beauvoir parle des menstruations. Enfin, donc, et j'avais une sorte de...
Mais ce n'est pas sensuel ou corporel.
C'est ça, exactement. Donc, du coup, j'avais une sorte de désir de parler du corps de cette manière-là, de parler de l'impuissance. Mais je ne voulais pas, justement, faire système. Et j'ai essayé de rentrer par cette problématique-là, par quelque chose donc qui, en fait, est souvent un épisode relativement limité dans le temps, même si on peut sangloter beaucoup dans un épisode de sa vie, et qui n'est pas forcément quelque chose qui est totalisant. Et donc, à un moment donné, cette idée des sanglots m'est venue précisément en raison du côté presque anecdotique du phénomène, si on regarde ce que c'est que le comportement, l'attitude ou la posture d'un corps humain à l'échelle d'une vie, quoi. Voilà. Et donc voilà. Et donc ce projet d'un regard micrologique se posant sur l'expérience de l'impuissance me permet, je pense, de mettre en évidence ce que devient un sujet. Donc il y a là, si vous voulez, encore une forme de réflexion sur le sujet, donc dans son aspiration et dans son rêve de maîtrise, lorsqu'il est confronté à ses limites. C'est-à-dire, en général, on sanglote parce qu'on vient d'être confronté aux limites de nos pouvoirs et de nos puissances. La vie vient de nous signifier que non, il n'est plus possible de rien faire. Oui, j'ai vraiment échoué professionnellement. Oui, cette personne vient de décéder, etc. etc. Et donc, cette confrontation radicale avec l'impuissance donne lieu, entre autres manifestations possibles, à des sanglots. Donc, j'ai voulu m'arrêter sur qu'est-ce qui se passe dans une crise de sanglots, dans cette chaotisation du corps. Qu'est-ce que fait un corps qui sanglote et qu'est-ce qu'il fait au sujet, en fait, d'une certaine manière, pour revenir à la question qu'on se posait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait au sujet et comment est-ce qu'il le destitue?
Et puis aussi, pour revenir à la question que je vous posais sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on a lu Adorno, parce que parfois, en fait, cette critique tout le temps, en fait, nous semble paralysante, je peux dire, d'une certaine manière, Estelle Ferrarese, que vous affrontez justement cette question-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent impuissant, quand on est impuissant à travers les sanglots? Et vous posez cette question, pourquoi vouloir toujours, en fait, d'une certaine manière, s'en sortir, en tirer quelque chose, qu'on pourrait dire aussi à la question que j'ai posée quand je dis mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a lu Adorno? Peut-être rien en fait. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut aussi ne rien faire mais juste constater l'impuissance?
En tout cas, ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'est vraiment de m'arrêter sur l'impuissance. C'est-à-dire de lui donner la possibilité d'être vu, lu, entendu.
Sans la valoriser.
Voilà,
sans...
c'est ça. Et surtout sans en faire le point de départ d'une réflexion immédiatement sur la puissance, qui est en général la manière dont la philosophie s'empare de l'impuissance. C'est-à-dire, il y a ce moment, et voilà, il va y avoir un effet presque cliquet. Hein, c'est-à-dire qu'on touche le fond et ça repart. Et donc, en fait, c'est le moment du cliquet qui est toujours pensé. Donc moi, je voulais vraiment m'arrêter. Voilà. Il y a ces moments où, finalement, je ne suis que face à la limite de mes pouvoirs, mon corps en plus redouble cette impuissance, m'oblige à regarder d'une autre manière ce que peut-être au fond je sais très bien, mais dont je vais faire la connaissance ou refaire la connaissance d'une manière avec, beaucoup plus intense, hein, qui est l'impossibilité pour moi de me poser en être souverain ou aspirant à une forme de souveraineté sur le monde. Et voilà, c'est ça qui, je crois, peut avoir un intérêt, c'est-à-dire se donner véritablement penser l'impuissance et son expérience avant de passer à ce qu'on espère tous, c'est-à-dire la sortie de l'impuissance. Oui. Il ne s'agit pas de dire que il y a quelque chose à célébrer là-dedans, pas du tout.
Avant de passer à notre séquence de fin, Estelle Ferrarese, une dernière question. Vous avez lu une quarantaine de fois, vous nous avez dit, vous avez dit à Manon de la Salle en préparant cette émission, Minima Moralia. Est-ce que pour vous, Minima Moralia, c'est une manière de rester dans l'impuissance et en fait d'y faire face, ou au contraire, c'est ce cliquet qui vous permet d'en sortir?
C'est une question difficile, ça. Je pense que c'est peut-être un cliquet, oui, au sens où il s'agit en tout cas d'aiguiser avec un texte qui, par endroits, peut sembler daté. Je crois, il y a effectivement des moments où, bon, clairement, on sent les années 40 du siècle passé, déguiser le regard à la fois sur le monde et y compris sur soi-même, c'est-à-dire en fait d'avoir une absence de mansuétude pour soi-même, y compris dans ses pratiques politiques, il me semble assez salutaire.
Dans mon pays de Louisiane, lorsque j'étais un boy heureux, j'avais un chien, un grand canard, une hutte, un coin de ciel bleu. Aujourd'hui, dans la grande ville, je n'ai plus ni âne ni chien. Je grelotte dans mes guenilles et il me faut gagner mon pain. Trouve ça de toujours recommencer. La même chose inutile. J'aime mieux rester couché.
Cette chanson, Estelle Ferraresé, pour introduire cette séquence de fin d'émission. Après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Dewey.
Donc John Dewey.
John Dewey, absolument, totalement.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, philosophe pragmatiste.
C'est ça, du début du XXe siècle, qui connaît depuis quelques temps, depuis une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années, une actualité...
Qui vous dépasse, apparemment.
Qui me dépasse complètement, vraiment. Je n'arrive pas à comprendre ni où serait la puissance de la proposition qui est faite, je dois dire. J'ai vraiment essayé de le lire, notamment le public et ses problèmes, puisque ça renvoyait aussi à des choses sur lesquelles je m'étais pensée, comme la question de l'espace public. Ni la puissance, ni surtout ce qu'on peut, enfin le gain politique qu'il y a à parler avec John Dewey. Pour moi, il y a derrière déjà cette idée de sens commun.
Ça, c'est un des grands concepts de John Dewey.
Quelque chose qui renvoie finalement un accord toujours déjà là entre les individus d'une société qui, quand on se place dans une perspective adornienne, est quand même assez problématique, renvoie a priori peut-être à des effets de domination extrêmement forts, mais même sans... Jusque-là, c'est vraiment presque... Qu'est-ce que c'est que l'être humain chez Dewey, qui me semble, je sais pas, j'allais dire presque malhonnête, parce que d'un côté, ça n'est pas la figure du sujet souveraine, rationnelle, au sens vraiment d'une capacité froide à sortir de l'état de tutelle ou des choses comme ça, mais c'est une version beaucoup plus prosaïque qui en fait une sorte, fait de ce sujet une sorte de, j'allais dire presque de petit malin, de petit rusé, quoi, qui en fait est toujours
vous le détestez.
Ah mais oui, c'est-à-dire en fait une sorte de d'expérimentateur face à des troubles, des problèmes, qui en fait parvient à s'en sortir, à agir plus ou moins efficacement, stratégiquement.
En fait, il y a pas de chair chez lui, comme, enfin, c'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression qu'il traite de problèmes comme ça de loin. Enfin, à vous écouter, hein, je n'ai pas d'avis sur John Dewey, je le connais pas assez bien, mais
oui, alors il y a la question de la chair, mais c'est vraiment le rapport au monde en fait qui me semble en fait finalement avoir une parenté un peu étrange. Finalement, avec ce sujet souverain, il s'agit toujours en fait finalement d'avoir une juste évaluation de manière à agir, comme je disais, plus ou moins efficacement. Sauf que ça ne se donne plus comme une aspiration à domination, mais il me semble qu'il y a quand même des allers-retours entre les deux. Et pour moi, c'est vraiment donc complètement incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut, alors comme on a pu le faire, y compris à l'intérieur de l'école de Francfort, par exemple, Axel Honneth, depuis quelque temps, donc relie Dewey, tente d'en faire quelque chose d'articulable à la théorie critique. Pour moi, c'est exactement l'inverse en fait. Il nous propose quelque chose qui, de manière en plus pas très claire, a beaucoup d'affinités avec tout ce contre quoi l'école de Francfort a toujours lutté. Donc voilà,
tant pis pour Johnny. Oui, merci beaucoup Estelle Ferraresé. De vous, on peut lire et lisez-le, c'est très beau. Une philosophie des sanglots, paru aux éditions Payot et Rivage. Je cite aussi votre livre précédent, Le marché de la vertu, critique de la consommation. C'est disponible aux éditions Vrin. Et lisez aussi Minima Moralia de Théodore Adorno, réflexion depuis la vie mutilée. Je reprends votre traduction Estelle Ferraresé. Le livre est disponible aux éditions Payot dans une traduction de Eliane Koff-Holz et Jean-René Lamiral. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à François Saint-Jour à la prise de son. Les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France. Lundi, c'est Géraldine Mühlmann et son équipe que vous retrouverez à ce micro pour une nouvelle série d'émissions.